Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. À la une, Elisabeth Borne s'exprime sur RTL. La Première Ministre nous a accordé un entretien depuis l'Algérie aujourd'hui.
Essence 49.3, la chef du gouvernement répond aux questions que vous vous posez.
Elle tiendra ce soir une réunion à Matignon autour de la crise des stations-service. Emmanuel Macron lui dénonce les blocages de raffinerie.
Grève reconduite, négociation au point mort, stations-service à sec, ramassage scolaire annulé. Télétravail forcé, toute l'économie s'inquiète.
Et notamment le PDG de Système U, Dominique Schelcher, sera également notre invité dans RTL Soir.
À suivre aussi la riposte de Vladimir Poutine. Plus de 80 missiles tirés ce matin, notamment sur Kiev, où les habitants sont retournés aux abris. Et puis une octogénaire sauvée des eaux, c'était la semaine dernière dans la Vienne. Témoignage de l'octogénaire et de ses sauveurs, les gendarmes.
À 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signé la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, alors que le procès du crash Rio-Paris vient de s'ouvrir, vous allez comprendre comment, privé de ses instruments, un pilote peut ne pas savoir si son avion monte ou descend. Au menu également, les youtubeurs plus forts que la Formule 1, la justice au service des animaux et la plus grande station-service du monde qui est à seulement 350 km de Paris. Et en plus, elle est pleine.
À 19h15, on va refaire le monde et il y a du boulot avec Éric Brunet et Aurélie Herbeumont. Et puis le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain, vous avez de bonnes nouvelles, non?
Au nord et dans le sud-est. Ailleurs, non.
Ailleurs, non. Okay.
Vous avez compris.
On détaille ça tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Des coups d'épée dans l'eau. Pour l'heure, ni les pressions de l'Élysée, ni celles de Matignon n'ont mis un terme au blocage dans les raffineries et les dépôts de carburant.
La grève lancée par la CGT pour des augmentations de salaire a même été reconduite et étendue. On va voir ça dans un instant. D'abord, les mots d'Emmanuel Macron sur ce mouvement et ses conséquences.
C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la Première ministre ou des ministres. Donc, le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Je considère que cette situation... Il y a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça ne doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Et vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
Et la Première Ministre qui a appelé sur RTL tous les acteurs à se mettre autour de la table, vous l'entendrez après ce journal, réunira ce soir en urgence plusieurs de ses ministres pour évoquer la situation.
Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Alors clairement, la situation, elle ne s'est pas améliorée aujourd'hui. Chez Total Energy, comme chez Esso ExxonMobil, eh bien, la grève continue.
Oui, en fait, ces négociations, c'est une histoire de courant d'air. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se referment en claquant. On va tout reprendre dans l'ordre. Hier, 12e jour de grève avec des conséquences de plus en plus visibles à la pompe. Total Energy se dit prêt à avancer les négociations salariales prévues normalement le mois prochain. C'est la principale revendication des grévistes. Ils demandent 10% d'augmentation. Donc, OK pour négocier dès maintenant, si et seulement si le blocage des raffineries est levé. C'est la porte ouverte. Réponse ce matin de la CGT, c'est du chantage. Les syndicalistes refusent de reprendre le travail sans connaître le montant de leur augmentation. Grève reconduite, c'est la porte qui se claque. Cet après-midi, nouveau communiqué de Total Energy dans les boîtes mail de toute la presse. C'est pas nous, c'est vous qui faites du chantage. Voilà pour la version résumée. Donc la porte ne se rouvre pas tant que la grève dure. On est revenu à la situation d'hier soir, au point mort, voire même à la panne sèche.
Voilà, la grève qui se poursuit. On verra dans un instant avec vous, Pierre, si les difficultés s'étendent et dans quelle région. D'abord, une illustration des répercussions de ce mouvement sur la vie quotidienne de nombreux Français.
Oui, sur votre vie. Dans l'Essonne aujourd'hui, plusieurs lignes de cars scolaires n'ont pas pu être assurées. Décision de la société des cars bleus qui transportent chaque jour 8000 enfants. Aujourd'hui, 7000 d'entre eux ont dû se débrouiller. Et cette débrouille, vous l'avez d'ailleurs constatée pour RTL devant un collège d'Étampes, Célestin Bougère.
Oui, prévenu vendredi de l'annulation de certains bus, les parents ont pu s'organiser pour récupérer Julia, une élève de 4e. C'est Josette, la grand-mère, qui s'y colle.
On va pas laisser les gamins faire 6 ou 7 kilomètres à pied. Et puis, il y a énormément de passages, de grandes routes à traverser, donc c'est pas bon. C'est un peu galère pour tout le monde, ça va que les grands-parents sont là. On sert à ça.
Aucun bus ce matin non plus pour Firat, 14 ans. Pour venir en cours, il a dû faire un peu de sport.
Bah, je suis venu à pied, mais je suis venu en retard, vu que j'habite à 35 minutes ici à pied. Bah, mes parents, des fois, ils me ramènent, mais voilà, quoi, c'est chaud. Et j'espère que ça va pas se reproduire.
Sur les 100 bus de la société L'Écart Bleu, seuls 10 ont pu prendre la route ce matin. Laurence Bernard, la responsable administrative, réclame d'être servie en priorité.
Que les médecins, les pompiers soient prioritaires, on peut le comprendre. Mais derrière, il y a nous aussi. On nous dit qu'il faut que les gens aillent travailler. Oui, mais il faut aussi que nous, on puisse emmener leurs enfants pour que les gens puissent aller travailler.
En début d'après-midi, la société a enfin été ravitaillée en carburant. Mais ce nouveau stock correspond seulement à 2 jours de service. De nouvelles perturbations sont donc à prévoir.
Voilà, des cars scolaires qui peinent donc à circuler dans l'Essonne. Des pompiers dans le Rhône qui ne demandent un accès prioritaire aux stations pour rejoindre leur caserne. Le patronat qui redoute que le mouvement ne freine l'activité économique. Pierre Arbu, est-ce qu'aujourd'hui toute la France est concernée par ces difficultés d'approvisionnement?
Oui, mais pas dans les mêmes proportions. Le dernier chiffre officiel, c'est 1 station sur 3 en pénurie au niveau national. 8% de stations à sec de plus que la veille. Ce que l'on sait aussi, c'est que dans les Hauts-de-France, c'est carrément 1 station sur 2 qui est en difficulté. Plus qu'une station ouverte à Lille, par exemple. Vu que la grève est reconduite, pas sûr que ça s'améliore, pas sûr que ça se dégrade non plus, puisque le gouvernement a débloqué ses stocks stratégiques et que Total, en parallèle, importe massivement du carburant.
Des carburants donc qui manquent par endroit. Et des prix qui augmentent, plus 10 centimes en moyenne le litre de gasoil la semaine dernière à 1,80€, plus 7 centimes pour le sans-plomb et le super sans-plomb entre 1,59€ et 1,64€ le litre.
Bon, bon courage à tous, en tout cas si vous êtes à la recherche ce soir d'une station pleine. On précise aussi que le gouvernement va prendre un arrêté pour interdire le remplissage des jerrycans. Et on vous rappelle que la première ministre Elisabeth Borne sera notre invitée. Entretien exclusif enregistré en Algérie dans quelques minutes, juste après le journal. Vous entendrez Elisabeth Borne et puis le PDG de Système U dont les stations se vident, Dominique Schelcher, sera avec nous également dans RTL Soir.
RTL Soir.
18h06, retour aux abris en Ukraine, dans les caves, dans le métro, alors que de nombreuses villes du pays ont été bombardées ce matin par la Russie.
D'est en ouest, du nord au sud, des dizaines de missiles tirés 2 jours après l'attaque et la destruction partielle du pont de Crimée. Une riposte inédite de Moscou qui a fait au moins 11 morts et 64 blessés. Natalia Vitakiev, qui n'avait plus connu de bombardement depuis le printemps dernier.
J'étais à la maison chez moi, j'ai tout de suite mis ma fille dans la salle de bain, que j'ai tout de suite mis de l'eau potable dans les casseroles et tout ça, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce que se passe. Pour le moment, je m'occupe d'une chose, c'est de faire quand même une ambiance normale pour ma fille, parce qu'elle a 4 ans, elle comprend qu'il y a la guerre, mais on essaie de vivre.
Alors, est-ce là une nouvelle étape de la guerre? Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Ce qui est certain, c'est que ce déluge de feu, c'est du jamais vu depuis le début de l'invasion.
Oui, tout le pays sous le feu russe, 83 missiles tirés depuis la Russie. Près de 50 ont tout de même été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. Mais les dégâts sont considérables, notamment à Lviv, Kiev et Dnipro. On dénombre plusieurs victimes. La Russie parle, elle, de cibles militaires et stratégiques. À Kharkiv et Lviv, donc à l'est et à l'ouest, les Russes ont tenté de couper les approvisionnements en eau et chauffage d'une partie du pays. Mais à Kiev, ce qui a été visé, ce sont une université, une aire de jeu pour enfants, un pont piéton. Et on a donc vu ce matin des scènes qu'on n'avait pas vues depuis le début de la guerre. Le métro à l'arrêt et les stations qui servent d'abri anti-aérien.
Voilà, des sites civils donc visés à Kiev, Émilie, et Vladimir Poutine assume. Hein.
Oui, il va même plus loin puisque le président russe promet une réplique sévère en cas de nouvelles attaques ukrainiennes. Allusion ici au pont qui relie la Crimée à la Russie et partiellement détruit ce week-end. Et puis l'autre inquiétude ce soir, c'est le voisin biélorusse. On sait qu'Alexandre Loukachenko prête son territoire et ses infrastructures aux soldats russes. Eh bien, il annonce aujourd'hui une force militaire conjointe avec Moscou, sans dire pour l'instant quelle sera sa mission.
Des bombardements condamnés en tout cas à travers le monde. Un frappe horrible, dit Washington. Attaque aveugle, selon le patron de l'OTAN. Escalade inacceptable de la guerre, ajoute le patron de l'ONU.
Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec une octogénaire sauvée de la noyade par des gendarmes à peine traumatisée mais reconnaissante. Elle témoigne sur RTL et c'est juste après ça. Vous restez avec nous.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, vous écoutez toujours RTL Soir, bonne fin de journée. Et on voulait maintenant vous raconter l'histoire de Monique, sauvée de la noyade la semaine dernière par des gendarmes.
On voulait aussi que vous les entendiez, l'un de ces gendarmes et cette habitante de Montmorillon dans la Vienne. Monique, 81 ans, la voix souriante quand elle raconte pourtant comment, avec son 4x4 vitesse enclenchée au démarrage, elle a fini dans l'eau lundi dernier, habitacle inondé, juste une poche d'air pour respirer, jusqu'à la l'arrivée de l'adjudant Sébastien Bassani. Tous deux se sont confiés à Nathan Bocard pour RTL.
J'ai mis le contact, la voiture est partie toute droite et arrivée à la rivière 1,50 m plus bas, pouf, elle s'est retournée. Les quatre roues en l'air, l'eau est rentrée naturellement. Il m'est resté juste une toute petite poche d'air, mais alors minuscule. J'ai réussi à la trouver, puis j'ai attendu que ces braves gendarmes viennent.
Il fallait absolument intervenir. Donc on a sauté à l'eau au plus rapide. J'arrive à me faufiler entre la portière et la voiture. Donc à la suite de ça, on arrive à sortir Madame Delfour. Il était temps qu'elle sorte de l'eau, quoi, cette pauvre dame.
Je les ai revues depuis, ils étaient très sympathiques. On en a même rigolé parce que c'est vrai que c'est un coup de peau. Hein.
Ça fait plaisir. D'arriver au bon moment, au bon endroit, ça peut changer pas mal de choses. C'est une dame âgée qui est pleine de peps. On se reverra, c'est sûr et certain.
Bien sûr, hein, c'est quand même, c'était très sympathique. Ils n'ont pas hésité à sauter dans l'eau, à se mouiller jusqu'au cou pour arriver à me sortir. C'était très gentil. Très bien.
Incroyable, Monique.
C'était très sympathique.
Qui sourit donc de cette aventure, à peine traumatisée donc, apparemment. Dans la Drôme, le promeneur touché hier par le tir d'un chasseur n'est plus en danger. Le suspect dont la garde à vue a été prolongée affirme avoir confondu la victime avec un sanglier.
Et puis la grogne dans la police judiciaire s'amplifie.
Partie de Marseille après l'éviction du patron de la PJ de la zone sud qui conteste aussi la réforme de la police judiciaire. Et bien cette grogne gagne aujourd'hui Bordeaux, Toulouse et Limoges notamment, où les agents de police judiciaire reportent leurs opérations, perquisitions et autres auditions.
Enfin, un peu de football avec un club à la relance. 4 défaites consécutives et une place de 9e en championnat, l'Olympique Lyonnais a présenté aujourd'hui son nouvel entraîneur.
En la personne de Laurent Blanc qui assure, être très heureux de ce nouveau défi.
On va y aller avec douceur mais fermeté. Le premier objectif qui était le nôtre, c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les 5 derniers matchs qui arrivent, avant la trêve. L'urgence, en termes de jeu certes, il faut être peut-être certainement plus efficace, mais c'est surtout en termes de points, il faut prendre des points. Donc c'est d'être au top physiquement, d'être au top mentalement, d'être au top de partout. Ce n'est pas le cas actuellement. À nous de faire en sorte que cet effectif reprenne confiance en lui. Il y a du travail, ça me plaît. Donc je suis très heureux, voilà. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très heureux.
Laurent Blanc, très heureux donc au micro RTL de Frédéric Perruche, très heureux aussi de ne pas avoir été oublié par le monde du foot professionnel. Et premier rendez-vous pour Laurent Blanc et son équipe, dimanche face à Rennes.
Ça c'est un test, dimanche à 15h. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain, cher Peggy.
Alors, perturbé entre le sud-ouest, les régions centrales et le nord-est, et ça va être comme ça toute la journée avec un ciel souvent gris et des averses même orageuses l'après-midi sur les Pyrénées. Mais au nord et dans le sud-est, on a du beau temps. Alors le matin entre la Bretagne et les Ardennes, l'après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France en remontant jusqu'à la Lorraine. Et le sud-est, c'est un ciel beaucoup plus lumineux, légèrement voilé. Mais globalement, ça reste beau sous des températures qui sont fraîches le matin, surtout sur le nord-est. On se couvre à 4 degrés à Lille. Il en fera 10 à Paris, 15 à La Rochelle, toujours plus doux dans le sud. Et dans l'après-midi, de 15 à 20 degrés au nord et de 21 à 24 dans le sud.
Merci Peggy. Petite pause et puis comme promis, cet entretien exclusif Essence 49.3, vos retraites. Elisabeth Borne répond aux questions de RTL. La Première Ministre nous a accordé une interview depuis l'Algérie. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
18h, passé de 17 minutes, RTL Soir toujours avec vous, toujours à vos côtés avec donc un entretien exclusif maintenant autour des sujets qui vous préoccupent, l'essence bien entendu, mais aussi les retraites, le recours potentiel au 49.3. Elisabeth Borne s'exprime sur RTL, interview depuis l'Algérie où la Première Ministre était ces dernières heures en visite. Elle répond aux questions de notre envoyé spécial Thomas Després.
Merci Madame la Première Ministre de prendre quelques instants. Vous achevez ce soir votre première visite officielle dans un État étranger. Quel bilan vous tirez de ces un peu plus de 24 heures que vous avez passées ici en Algérie ?
Alors cette visite, elle s'inscrit dans la suite du déplacement que le Président de la République a fait en Algérie il y a 50 jours. Et il s'agissait de reprendre le dialogue entre les ministres sur tous les sujets. Et donc l'objectif, c'est vraiment de se donner des jalons un programme de travail et des jalons dans les prochains mois. On a déjà signé 11 accords hier sur des sujets importants, notamment l'industrie et la technologie, les start-up, l'agriculture. Donc vous voyez, on a beaucoup de sujets de coopération entre nos deux pays.
Mais il y a des sujets sur lesquels il y avait beaucoup d'attentes, notamment sur la question des visas ou encore celle des échanges de gaz. Ces discussions-là n'ont pas avancé, en tout cas elles ne font pas partie des accords. Est-ce que vous diriez qu'il y a encore des crispations, que cette relation est encore un petit peu fragile ?
Alors sur le gaz, c'était pas à l'ordre du jour de nos échanges. On avance sur le gaz. L'Algérie est un fournisseur de la France à hauteur de 8%. Les contrats se déroulent normalement. Sur les visas que vous mentionnez, Gérald Darmanin, il voyait pour la première fois son homologue, donc ils sont au travail et j'ai pas de doute qu'on va trouver une solution rapidement.
Il y a une question qui en France préoccupe beaucoup nos compatriotes, c'est celle des carburants. Hier, vous avez dit à votre arrivée dans l'avion que vous suiviez ce dossier de très près. Comment assurer aux Français que la situation va s'améliorer dans les prochains jours dans leur station-service ?
Alors on fait deux choses. D'abord, comme il y a un certain nombre de raffineries et de dépôts qui sont en grève, on a réorganisé la logistique, les flux, pour pouvoir alimenter des stations-service des régions concernées à partir d'autres dépôts. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va s'améliorer au cours de la semaine. Et puis par ailleurs, moi j'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés, à la fois d'Esso et de Total, à se mettre autour de la table. Il y a des blocages qui sont liés à des attentes salariales de la part donc des salariés. Moi, je compte sur la direction et les représentants des salariés pour trouver des accords et arrêter les blocages qui pénalisent les Français.
En quelque sorte, vous renvoyez à la responsabilité de ces deux entreprises, Total et Esso ?
Moi, j'attends de la responsabilité de la part des organisations syndicales et des directions pour qu'on puisse trouver un accord et ne pas pénaliser les Français.
En disant qu'à la fin de semaine, ça ira mieux ? En tout cas, c'est ce que vous espérez ?
Alors, nous voulons absolument pouvoir avoir des améliorations dans le courant de la semaine et sortir effectivement de ces difficultés dont je suis parfaitement consciente.
Vous rentrez à Paris dans un contexte politique intérieur qui est particulier. Il y a l'examen du budget qui va commencer cette semaine dans l'hémicycle. On sait que le 49-3 plane sur l'examen de ce budget. À partir de quand vous décideriez d'actionner cet article 49-3 à l'Assemblée ?
Moi, je vais vous dire, mon état d'esprit, il est très clair. Nous cherchons des compromis, des accords. Nous sommes dans une posture de dialogue avec les oppositions. S'il doit y avoir des blocages, si on a des amendements qui engagent des dépenses très importantes qui ne seraient pas soutenables pour notre budget, ben on avisera. Mais vraiment, la logique, c'est de chercher au maximum le dialogue, le compromis, et puis le cas échéant, on avisera. Les Français, ils ne veulent pas que leur pays soit bloqué. Donc il y a des outils, en effet, dans la Constitution auxquels on recourra si c'est nécessaire.
Dernière question, le président vous a chargé avec Olivier Dussopt des négociations sur les retraites. Vous allez voir dans les prochains jours les présidents de groupes parlementaires. Comment se déroulent ces discussions ? Est-ce que vous avez bon espoir d'arriver à un consensus sur ce texte avant la mi-décembre, qui est l'objectif qui a été fixé ?
Moi, je note, vous savez, et certains nous disaient que ça ne serait pas le cas, donc c'est une bonne nouvelle que les organisations patronales et syndicales sont toutes venues. Dans la réunion de concertation qui a été lancée par Olivier Dussopt la semaine dernière, il y a un programme de travail sur des sujets importants, la pénibilité, l'usure professionnelle, le travail des seniors. Moi, j'ai bon espoir qu'on trouve des terrains d'entente sur beaucoup de sujets.
Vous pourriez négocier, par exemple, sur l'âge de départ à la retraite, 65 ans, c'est un impératif ou ça peut bouger ?
Alors, ça, c'est dans le programme du président de la République, donc c'est un repère important. On engage les discussions sur les autres sujets, le minimum de pension, le travail des seniors, comme je vous le disais. Et à la fin, notre objectif, c'est de remettre à l'équilibre notre système de retraite, ce qui est la condition de sa pérennité. Donc cet objectif-là, il est évidemment très important. Ensuite, on pourra voir le moment venu comment on peut y répondre.
Merci, Madame la Première Ministre.
Entretien exclusif, donc Elisabeth Borne a répondu la première ministre aux questions de Thomas Desprez en Algérie pour RTL. Elle appelle au dialogue, vous l'avez entendu sur RTL dans cette crise des stations-service. Elle va réunir d'ailleurs plusieurs ministres autour d'elle ce soir à Matignon pour faire le point sur cette crise. Grève reconduite, plus que jamais vous l'avez constaté. Vous vous inquiétez derrière votre poste, derrière l'autoradio à la pompe. Et bien Dominique Schellcher aussi, le PDG de Système U, sera notre invité dans un très court instant alors que ces stations se vide à côté de ces hypermarchés. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, RTL Soir toujours avec vous. Bon courage, surtout si le retour à la maison est un petit peu plus compliqué ce soir, si vous patientez devant une station en quête d'or noir. On l'évoquait avec la Première Ministre il y a quelques instants. Les mêmes scènes dans de nombreuses régions. Files d'attente, pénurie, une station sur trois environ fermée en France. C'est plus, beaucoup plus même dans le Nord et en région parisienne. Notre invité maintenant est Dominique Schelcher, le PDG du groupe de magasins Système U. Bonsoir.
Bonsoir.
Combien de vos stations-service ce soir ont encore de l'essence? Est-ce que vous avez un chiffre, un ordre d'idée?
C'est très difficile de vous donner un chiffre précis que je n'ai pas moi-même parce que la situation évolue en permanence. Elle évolue au gré des livraisons des camions de réapprovisionnement qui peuvent intervenir à tout moment dans la journée en fait. Et donc il y a des stations fermées, des stations ouvertes partiellement, mais nous avons des stations fermées, nous avons toujours des difficultés à aujourd'hui.
Et dans certaines régions particulièrement ?
Alors, le Nord, c'est vraiment très tendu, la région parisienne également, mais ça l'est dans l'Est aussi, et je dirais dans l'Est, ça l'est même depuis un certain temps, avant même le conflit social en cours. Et malheureusement, quelques stations avaient été fermées dès le week-end dernier dans la région Ouest. Donc non, aujourd'hui, la difficulté est un peu répartie dans toute la France.
Le gouvernement compte libérer une partie des réserves stratégiques de l'État pour alimenter justement les stations, contourner aussi la grève. Est-ce que vous saluez cette décision? Est-ce qu'il faut surtout accélérer ces livraisons?
Absolument, c'est une décision que je salue. C'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux depuis maintenant une semaine déjà. Et je peux vous confirmer que nous avons bénéficié dans notre groupement de libération de stocks stratégiques et que donc, effectivement, cela permet de réapprovisionner les stations. Et heureusement qu'il y a cette libération de stocks stratégiques.
Est-ce qu'il faut aller plus loin jusqu'à des blocages de raffineries, des réquisitions, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron a dénoncé assez fermement les barrages cet après-midi.
Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir en tête évidemment que cette situation pèse lourdement sur le quotidien des Français. Quand vous attendez 2 heures, 3 heures pour faire votre plein, quand vous vous relevez la nuit pour aller faire un plein, pour aller travailler le lendemain, c'est extrêmement lourd. Donc toute mesure qui pourra être prise pour fluidifier l'approvisionnement sera bonne à prendre. C'est pas à moi de dire laquelle, c'est aux autorités de le faire. Mais en tout cas, déjà, libérer suffisamment de stocks stratégiques. Je rappelle que la France dispose de 3 mois de stocks stratégiques. Voilà, donc si c'est une partie de ces stocks pouvait être libérée dans les zones qui en ont le plus besoin, ce serait vraiment parfait, parfait.
Sur RTL, Elisabeth Borne a appelé au dialogue chez les fournisseurs, parce qu'on est très dépendant des fournisseurs. Et ce dialogue, il est au point mort. La CGT reconduit la grève, Total ne veut plus discuter sous la contrainte. On a un peu l'impression d'être dans l'impasse. Est-ce que ça vous inquiète ?
Bien sûr que je suis préoccupé parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Vous savez, quand une raffinerie redémarre, donc le jour où le dialoge social aura été fructueux, abouti, il faudra redémarrer. Et redémarrer une raffinerie, il faut compter au moins une semaine. Il faut le savoir. Donc plus vite ça va pouvoir intervenir, mieux ce sera pour les Français. Et donc on ne peut que appeler au dialogue et puis à trouver une solution, bien évidemment.
Total est à la fois vendeur d'essence et fournisseur. Est-ce que Total, d'après vous, privilégie aussi ses propres stations au détriment peut-être des vôtres quand il faut livrer, en sachant qu'il y avait déjà une razzia sur leur pompe avec leur ristourne de 30 centimes?
Nous, ce que nous faisons du côté de Système U, c'est de trouver tous les approvisionnements possibles. Donc c'est nos approvisionnements habituels, nos fournisseurs habituels, mais nous importons aussi des quantités de l'étranger auprès d'autres fournisseurs. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver de la marchandise.
Donc pour ne pas compter uniquement sur Total aussi.
Mais absolument, absolument. Il faut mettre en œuvre tous les moyens. Et donc, il y a des importations actuellement de carburant étranger pour aider à faire face à la situation, en plus de la demande dont on a déjà parlé, de libération de stocks stratégiques.
Un mot aussi, pour terminer, des prix dans les magasins, Dominique Schelcher. Ce matin, un de vos concurrents, Michel-Édouard Leclerc, estimait que le véritable choc sur les tarifs, donc dans les rayons de nos supermarchés, ce serait en janvier. Est-ce que pour vous, effectivement, l'inflation est durable et ce n'est peut-être que le début de la crise ?
C'est mon propos depuis plusieurs mois. J'indiquais que cette inflation serait durable. Pour l'instant, nous avons devant nous encore l'impact de la crise énergétique, et cette fois celle de l'électricité et du gaz. Les prix de ces énergies vont beaucoup bouger au 1er janvier prochain, parce que plein de contrats d'entreprise se terminent au 31 décembre cette année. Et donc, effectivement, nous négocions avec nos fournisseurs actuellement des hausses par rapport au prix de l'énergie. Et là, tout le monde va y être confronté, y compris les particuliers. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte que cette hausse soit parfaitement négociée, la plus juste possible par rapport à la demande du fournisseur et des comparatifs que nous avons par ailleurs, bien sûr, pour défendre les consommateurs.
Merci Dominique Schelcher, PDG du groupe de magasins Système U, d'avoir été ce soir l'un des invités de RTL Soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, s'informer ensemble.
18h32 minutes.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, on vous rappelle les trois grands titres du reste de l'actualité avec vous, Marion Calais.
La réaction il y a quelques minutes du président américain Joe Biden après les frappes russes sur l'Ukraine. Il condamne la brutalité absolue des bombardements qui ont fait au moins 11 morts ce matin. L'ouverture du procès du crash du vol Rio-Paris qui avait fait 228 victimes il y a 13 ans. Les prévenus Air France et Airbus ont contesté aujourd'hui toute faute dans ce drame. Après la récolte catastrophique de 2020, l'espoir déçu des apiculteurs cette année. La sécheresse a durement touché les abeilles et la production de miel.
Le temps justement, Peggy, pour demain.
La perturbation d'aujourd'hui, on va la retrouver entre le sud-ouest, les régions centrales, jusqu'au nord-est le matin et même jusqu'au nord des Alpes l'après-midi avec des averses, averses orageuses sur les Pyrénées l'après-midi. Il fera beau après dissipation des grisailles matinales sur le nord-ouest entre la Bretagne et les Ardennes le matin jusqu'au Pays de la Loire et la Lorraine l'après-midi, et dans le sud-est, un ciel légèrement voilé mais lumineux, le tout sous des températures en baisse, mais de saison, de 15 à 20 degrés au nord et 20 à 24 au sud.
Merci Peggy.
Laissez-vous tenter dernière.
Effectivement, c'est laissez-vous tenter dernière. Maintenant, la parenthèse réjouissante au milieu de cette actualité chaotique avec des idées de lecture ce soir pour les enfants à l'occasion de la fête de la science. On fête la science en France jusqu'au 17 octobre. Bonsoir Laurent Marcy.
Bonsoir.
Alors vous êtes venu ici en studio, je vais les attraper, je penche mon micro avec des livres atypiques, des livres singuliers. Premier choix, premier coup de cœur pour une histoire de l'humanité baptisée « Nous ». Les Indomptables.
Et que l'on doit à Yuval Noah Harari. Ça vous dira peut-être quelque chose. C'est l'auteur de Sapiens, un livre publié chez nous en 2014 et dont il a vendu dans 65 langues 35 millions d'exemplaires. Ah oui. Dire si c'est un succès dans ses différentes déclinaisons. Avec les dessins de Richard Zaplana Ruiz, cette fois-ci, Yuval Noah nous plonge dans l'histoire des humains. Ce sont eux les Indomptables du titre, comme les humains, comment les humains ont conquis le monde. C'est le premier tome de cette fantastique histoire qui débute comme ceci.
Notre histoire commence il y a très longtemps, il y a des millions d'années, quand les humains étaient encore des animaux comme les autres. Nous n'habitions pas dans des maisons, nous n'allions ni au travail, ni en classe. Nous n'avions pas de voiture, pas d'ordinateur, pas de supermarché. Les êtres humains vivaient dans la nature, ils grimpaient aux arbres pour cueillir des fruits, ils reniflaient des sous-bois pour trouver des champignons, et il mangeait des vers de terre, des escargots et des grenouilles.
Un livre qui raconte l'homme et qui se lit comme un roman.
Oui, vous l'avez entendu, un roman documenté. À chaque fois, il part de quelque chose que les enfants connaissent pour remonter le temps. Il le fait par exemple avec La peur du noir, Le monstre dans le placard. Élise Lacharme est éditrice chez Albin Michel Jeunesse, c'est elle qui publie ce roman.
Exactement. Quand on s'adresse à un enfant, pour l'intéresser à l'histoire, plutôt que de lui parler de personnes très vieilles, très anciennes, qui sont mortes, qui ont vécu autant jadis, eh bien, il va commencer à parler de ce qui touche les enfants en premier lieu. Et par exemple, en effet, vous parliez du fait qu'il a envie de parler de cette peur ancestrale des monstres dans la nuit. Eh bien, Yuval Noah Harari nous explique que cette peur est ancestrale, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un vrai danger qu'un tigre, qu'un lion, qu'une grosse bête jaillisse sur nous au milieu de la nuit.
Notre organisme n'oublie
ça
pas.
Ça, c'est resté au plus profond de nous.
Exactement.
Quoi, c'est
fou. Tirage à 60 000 exemplaires. Le premier des quatre tomes. Il va y en avoir un par an pendant quatre ans. Vient de sortir, Nous les Indomptables, ou Comment les hommes ont conquis le monde, chez Albin Michel Jeunesse.
Et l'autre livre sur lequel Julien a la main ce soir, c'est un joli petit pavé, un atlas historique de la Terre.
Oui, sous la plume d'un docteur en géographie, Christian Grataloup, qui a réussi le le tour de force de réunir dans un seul ouvrage l'histoire de la Terre et son usage par les humains. Habituellement, il faut 5-6 livres pour réunir cette histoire. Ici, il y a l'histoire de l'univers, l'histoire de la vie, celle des humains, les sociétés, la crise environnementale. Tout est réuni dans ce livre bourré de cartes et d'estampes. Il y en a plus de 300 et d'explications. L'Atlas historique de la Terre est publié avec le concours des rédactions de l'Histoire. Et Science et Avenir, c'est gage de qualité aux éditions Les Arènes. C'est une bible, les enfants, pour les exposer en histoire.
Ah oui, c'est ça, j'imaginais très bien. Je me revoyais au collège en train de réaliser des exposés. Ouais, on n'avait pas Internet.
Mais c'est mieux qu'Internet. C'est
voilà. Il y a plein de cartes, j'adore les cartes. Super. Merci beaucoup pour ces conseils, cher Laurent Marsic. La suite dans RTL Soir, c'est dans quelques secondes. On va défaire le monde. L'info autrement avec le trio Cyprien Sini, Laurent Tessier, Antoine Cavalierou. Bonsoir,
bonsoir
les amis.
À tous.
Le procès du crash Rio-Paris s'est ouvert aujourd'hui. Et donc, on va s'interroger avec vous. On va aussi expliquer à nos auditeurs comment un pilote peut être désorienté, ne pas comprendre que son avion est en train de décrocher. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.